Bonjour à toutes et à tous. Voici le message que j'ai prêché et enseigné mercredi passé. C'est sur le sujet de la lutte et ce que la Bible dit de la lutte. Originellement, le message était partagé, mais malheureusement, à cause d'un problème technique, c'était pas possible de garder l'enregistrement, donc je re-enregistrerai ce message pour le bien de tous et toutes. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, et merci pour ta présence, et merci pour ton cœur. Tu es prêt pour nous guérir. Tu es prêt de nous enseigner. Tu es présent avec nous. Je demande une bénédiction double pour ceux qui écoutent cet enregistrement de message. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Donc, comme nous avons déjà dit, le sujet de ce message est ce que dit la Bible sur la lutte, le combat, la lutte. Pour l'introduction, on peut dire que le monde est en permanence en train de lutter. On lutte contre nos membres de famille. On lutte contre nous-mêmes. Il y a une lutte interne dans nos âmes. Il lutte entre les nations, ça s'appelle la guerre. Il lutte politique dans une nation, on peut voir ça, c'est la politique. Il y a des fois des rébellions et des coups d'état. Nous avons des luttes par la police contre la criminalité. Nous avons une lutte dans l'économie. Nous avons une lutte pour un étudiant de écouter et pour être enseigné, pour apprendre, pour préparer pour une carrière, pour une profession. Nous avons lutte pour une mère et un père lutte pour ses enfants. Un père qui lutte, une femme qui lutte, sa femme qui lutte aussi dans son travail. La lutte, c'est partie de la vie. On est dans un monde qui est déchu et donc évidemment, certaines luttes sont douloureuses, fatigantes, et des fois on passe la vie en frustration, on est en recherche pour la paix. Mais la Bible parle de la lutte, et je vais donner 5 points sur la lutte. Certains légitimes, certains pas légitimes. Et on va commencer avec un verset pour établir la fondation, le fondement de cette étude. Ephésiens chapitre 6, verset 12 pour le contexte, mais on est intéressé avec verset 11 pour le contexte, verset 12, c'est vraiment le verset où on va rester. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, avec cette verset pour établir le début, on va regarder la première lutte. En Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, verset 22, nous avons une lutte interne. Une lutte interne en chacun de nous. Et Genèse chapitre 25, verset 22, parle de Rachel. pardon, Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Et on, Rebecca, elle avait deux enfants, des jumelles, deux enfants, Ésaü et Jacob. Donc, un qui est le frère aîné, on peut dire, un qui est le frère cadet. Et on peut voir que dans le ventre, pendant cette période de temps, avant d'accoucher, elle était troublée parce qu'elle a senti quelque chose dans sa ventre. Elle a demandé au Seigneur, si tout va bien, pourquoi que j'ai ce problème, ces douleurs dans ma ventre? Et la réponse du Seigneur est qu'il y a deux nations en toi, en train de lutter contre l'autre. Et on peut voir, ça c'est une image de la lutte en Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contre et à ceux de l'esprit, et l'esprit est de contraire à ceux de la chair. Ils ont opposé entre un, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ici, c'est parle de l'ancienne nature pécheresse. Ésaü était le premier né, il représente la chair, en Genèse chapitre 25. Jacob représente l'esprit, la vie en nous, la nouvelle naissance, le nouveau cœur. Et nous avons en permanence une lutte entre les deux. Les deux ne peuvent pas habiter en cohabitation, pas en colocation. Pour nous, le moment que nous sommes sauvés, nous sommes maintenant conscients d'une lutte entre deux natures en nous. Et ça ne va jamais arrêter jusque le moment qu'on meurt. Et on est enlevé, on est pris par le Seigneur d'être dans sa présence. L'ancienne nature pécheresse est en permanence en train de chercher d'être satisfait. C'est un désir dévorant, un désir qui est jamais satisfait. Le censure, en proverbe, a deux fils, deux filles, plus et plus. C'était jamais satisfait. Il est jamais assez. La chair toujours veut plus en plus. Et si nous voulons trouver des exemples, il faut juste regarder dans le monde. Voir toutes les entreprises, voir comment dans le milieu de commerce, de publicité, il y a toujours des présentations, des sollicitations pour attirer notre chair. Parce que, évidemment, très psychologiquement, ce qui fait la publicité comprend comment l'homme et femme pensent et présentent certaines choses pour attirer afin qu'on va être un faux désir, on va avoir un désir d'acheter ces choses. Et donc, on peut voir, ça c'est l'attitude de la chair. Nous avons l'esprit, nous avons la vie de Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit avec notre nouvelle nature. Et ça, il y a une paix avec Dieu. Mais pas une paix avec notre ancienne nature, ni avec le monde, et certainement pas avec le diable. Donc c'est nécessaire d'assumer et d'accepter qu'on va toujours lutter. Si on ne lutte pas, on va jamais être satisfait. chrétien rétrograde, le chrétien charnel, le chrétien qui veut juste simplement vivre sa vie en expérience si Dieu n'existe plus, cette personne va pas résister les initiations de la chair, ni le monde, ni le diable. Et cette personne va être pas épanouie. C'est pas une existence heureuse. Et donc, c'est de dire que la lutte est nécessaire dans la vie du chrétien. On peut pas être passif. Et on n'est pas pacifiste. Il est pas une terre neutre. On doit accepter et assumer la lutte. Le nature qu'on nourrit le plus va être le nature qui est plus fort et le nature qui va dominer plus. Évidemment, on va nourrir notre esprit, notre vie avec Dieu. On va chercher la nourriture, la nutrition pour nourrir notre esprit. C'est pourquoi que nous avons des désirs aussi de l'esprit. On a un désir d'être épanoui, d'être satisfait, d'être rempli. Et c'est quelque chose en permanence, mais c'est quelque chose qu'on vit avec paix. Mais de vivre contrairement dans la lutte, de vivre avec la chair et de vivre avec un monstre qui va jamais être satisfait, toujours en recherche pour plus. Donc le premier point, c'est la lutte interne en chaque croyant. Chaque croyant, ça n'existe pas dans la vie d'un non-croyant. Jusque le moment où ils sont sauvés, il n'est pas une résistance, il n'est pas une nouvelle nature. Donc ça, c'était la lutte interne. La deuxième lutte est une compétition, la concurrence entre deux croyants. En Genèse chapitre 29, verset 28 à chapitre 30, verset 24. Genèse 29, verset 28 à jusqu'à 30, verset 24. Et dans ces deux chapitres, on peut voir une compétition entre Rachel et Léa. C'est les deux filles de Laban. Ça veut dire, Laban est l'oncle de Jacob. Et Jacob arrive, et parce que Laban était un grand arnaqueur, et évidemment Jacob aussi, il a séduit, il a trompé, il a amené une ruse à Jacob de marier, mais Jacob voulut de marier Rachel. Et Laban, il veut qu'il marie Léa. Donc, en bref, parce que Jacob a réalisé le jour après le mariage qu'il a marié Léa, mais il a voulu de marier Rachel. C'est le jour après, le matin après. Et pour Jacob, il n'était pas content de tout, en colère. Mais il est toujours décidé de travailler pour marier Rachel. Donc, en fait, le résultat après 14 ans de travail avec Laban était qu'il est marié avec deux femmes. Léa, premièrement, et après Rachel. Donc, il était toujours là-bas, en train de travailler pour son oncle. Et les deux sœurs, évidemment, il est quelque chose révélé en eux. Pendant dans cette situation, et c'est quoi? En fait, il y a une compétition, un esprit de compétition entre les deux sœurs. Mais c'était dévoilé, c'était révélé parce que les deux sont mariés avec le même homme. Et après, il y a une compétition d'avoir des bébés parce que pour un juif, c'est l'importance d'avoir un héritier, de continuer la ligne et d'avoir une généalogie. Le cœur de Dieu est pas pour avoir un homme avec deux femmes, ni une femme avec deux hommes, ni plusieurs autres possibilités. le mariage que Dieu clairement respecte et Dieu veut dans sa volonté. Un mariage entre un homme et une femme. Un mariage entre un homme et une femme. Donc, pour voir ça dans cette parenthèse, c'était pas le plan idéal, c'était pas le plan de Dieu. C'est le plan permissif, pas le plan parfait. Mais Dieu a racheté une mauvaise situation. Mais juste pour dire que pendant le mariage, pendant ces années, chaque femme a voulu avoir des enfants. Et évidemment, ils ont les serviteurs, les femmes serviteurs, qui est deux autres serviteurs qui sont mariés. Un qui est fait partie de Rachel, un qui est fait partie de Léa. Et en fait, en réalité, elle avait quatre femmes, Jacob, parce qu'il voulait avoir plus d'enfants. Léa est en compétition avec Rachel et Rachel en compétition avec Léa. Et quand Rachel a accouché, ou en fait parce qu'elle était stérile, c'était sa femme serviteur, le serviteur qui était femme, pour représenter Rachel, elle a dit, je luttais avec ma sœur. Voir, il y a une lutte de compétition. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'il est toujours une lutte, si on est dans la chair, dans une église, dans une communauté de la foi, on va toujours avoir ces esprits de compétition entre des croyants. Peut-être deux groupes, peut-être deux individus, mais toujours une lutte. Un va être toujours le meilleur et l'autre va jamais accepter de laisser tomber, sauf si la personne spirituelle décide d'accepter de finir cette lutte et de tourner vers quelque chose de plus profitable. Donc, c'est possible dans une église, c'est possible dans une famille spirituelle, dans une famille biologique avec des deux croyants, que deux sœurs, deux frères, deux enfants peuvent lutter un contre l'autre. Ça, c'est une lutte illégitime. C'est pas une bonne lutte. C'est pas dans le cœur de Dieu. Ça représente la chair. Ça représente la sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse démonique. Une sagesse, en fait, un désir qui est une intelligence pour gagner, d'être toujours le premier, de montrer supériorité. Donc, c'est de humilier l'autre, en bref. C'est de couvrir mes insécurités par essayer de gagner en permanence. C'est une lutte sans cesse. C'est une lutte qui va détruire les relations. C'est une lutte qui va détruire ceux qui sont à côté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Des autres entrent dans la lutte aussi. Ils prennent leur place pour aider quelqu'un d'autre. Donc, deux personnes luttent en une compétition va amener des autres, évidemment, de sa côté, de ses côtés. Donc, maintenant, nous n'avons pas deux personnes en compétition. Nous avons plusieurs personnes en compétition. Ça, c'est une façon de détruire une église. Ça, c'est une façon de détruire des amitiés. Ça, c'est une façon de détruire toutes les relations. Ça peut détruire une famille aussi. Et si c'est plus large, une communauté, une localité, une ville, un pays, si vous voulez. Voir comment ces choses peuvent facilement et rapidement entrer dans un optique ou dans une perspective plus démonique. C'est certainement pas quelque chose qui honore Dieu. Donc, une lutte qui est légitime, qui est une lutte de compétition entre deux croyants. Le troisième, c'est une lutte légitime, une lutte contre les démons. On a déjà cité Éphésiens chapitre 6, verset 12, que c'est une lutte contre pas le sang et la chair. Ça veut dire que c'est pas une lutte contre un homme, c'est pas une lutte contre une personne devant moi, ou un groupe de personnes. C'est une lutte contre un esprit démonique. On est dans une guerre spirituelle. Et jusque le moment qu'on est, on meurt et on est devant le Seigneur, on va vivre sur la terre et on doit assumer que la guerre spirituelle est en train de rouler en permanence. Toujours une opportunité de chercher de détruire, de chercher d'enlever, de chercher de tuer, de chercher de diminuer et réduire notre capacité pour Dieu et notre accès à Dieu, d'arrêter notre possibilité de grandir avec lui et d'être un membre en bonne santé spirituellement dans la communauté de la foi, dans l'église locale. Donc, les démons en permanence sont en train de faire des tactiques, d'exécuter les tactiques pour empêcher nos vies, de réduire la qualité de nos vies, d'amener les soupçons dans nos pensées. Et il faut accepter cette lutte qu'on doit lutter. Paul a parlé de combat, de lutte pour combattre le bon combat, d'être un soldat de la foi en 2 Timothée chapitre 2. Et Timothée était un bon soldat. Il a lutté le bon combat. Il a combattu le bon combat. Et Paul, dans ses derniers mots, 2 Corinthiens chapitre 2 Timothée chapitre 3, dit exactement la même chose. Et chapitre 4, j'ai lutté et combattu le bon combat. On doit faire la même chose. On peut encore pas être passif. On peut pas laisser la place pour le diable. On peut pas chercher la paix avec ceux qui ne veulent pas la paix. On va jamais accepter. Comme la chair, les démons et le diable, jamais la paix avec eux. On peut essayer, mais la but ultime est de détruire. On ne peut pas avoir la paix avec eux. Et donc, il faut continuer de lutter. Mais la bonne chose, ce n'est pas une lutte avec notre propre force. Parce qu'on est dans le royaume de Dieu, on est membre du corps de Christ, on est dans une église locale, on est attaché à Christ, on a le Saint-Esprit en nous, on a des anges autour de nous, nous avons les pensées de Dieu, nous avons la pensée de Dieu aussi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et donc, nous avons toutes les provisions, toutes les ressources pour lutter. Évidemment, la victoire est à Christ, à la croix. Mais, comme un ennemi qui ne veut jamais arrêter et accepter la défaite, le diable va continuer. Et donc, il y a une bataille toujours dans un niveau d'expérience sur la terre. Et bien sûr, on est couvert par le Seigneur. On est équipé avec la parole, la prière, le casque de salut, la vérité qui nous rend libres, les pensées renouvelées par la parole de Dieu. Il faut savoir dans cette lutte que Dieu est vraiment avec nous et on peut reposer dans son amour. On peut être vivifié dans nos pensées, dans notre corps humain, notre corps physique. Donc c'est une lutte on assume chaque jour de nos vies et c'est une lutte qu'on n'est pas seul d'accomplir. Mais c'est une lutte qu'un jour va terminer, va finir. Une lutte avec Dieu, pour Dieu, contre le diable. Ça c'était le troisième. Le quatrième, c'est une lutte contre Dieu. Le quatrième point. Acte chapitre 9, Saul, sur la route de Damas, voit une grande lumière, tombe de son cheval, et lui, il est sur la terre de la route, et il entend une voix, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur répondit, c'est moi, Jésus, qui tu persécutes. C'est moi et tu me persécutes. C'est difficile. Le suivant, il a dit, c'est va être un grand danger pour toi de continuer de lutter contre moi. Il n'y a pas des animaux qui mettent une jambe pour, avec frustration, d'essayer de taper, frapper des humains qui sont derrière, en train de pousser l'animal, le bétail. Et ici, il parle de la fait que c'est possible pour Saul et c'est possible pour nous de résister Dieu. C'est une lutte contre Dieu, et une lutte contre Dieu est dangereuse pour nous. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Dieu est tellement tout puissant et nous sommes rien. On est la création de Dieu, on est des créatures de Dieu, créées dans son image. Mais si on résiste Dieu, il va nous résister aussi. Et ça va être plus douloureux pour nous, plus problématique pour nous. On va lutter contre lui et les conséquences pour nous sont très, très négatives. Et peut-être les conséquences qui restent pour toute la vie. Ça, c'est pour un non-croyant, mais c'est possible pour un croyant aussi. De continuer de rester de Dieu, de dire, ok, je suis sauvé, mais je veux ma vie dans ma manière de vivre. Et les conséquences, c'est aussi. On va perdre notre relation, notre salut, notre sécurité, mais on va perdre notre communion avec lui. Et on va continuer, et on va avoir une vie qui n'est pas satisfaisante parce que nous avons un esprit maintenant. Nous avons besoin d'être nourris par l'esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par l'assemblée locale. Couvré par la prière d'expérimenter la vie spirituelle proposée par Dieu. Et donc, de résister le plan de Dieu est un grand, grand problème avec des potentiels très sérieux pour nous. C'est pas profitable et c'est pas une lutte légitime. C'est une lutte qui peut nous détruire. Ça, c'est le quatrième point. Et maintenant, le cinquième point. Une lutte avec Dieu. Une lutte avec Dieu. En Genèse chapitre 32, on va utiliser cette illustration. Jacob a lutté avec un homme. Seul, la nuit avant, il va confronter son frère. Il était seul. Il a amené ses enfants et ses femmes et tous ses biens, tous les bétails, tous les serviteurs ailleurs, de traverser le Jabbok. C'est un petit fleuve, un petit fleuve à côté. Et lui, il a resté seul cette nuit. Il a confronté par un homme et on pense que cet homme est Jésus-Christ. Dieu lui-même. Et Dieu a lutté avec lui. Mais c'est une lutte bénéficielle, une lutte profitable. C'est une lutte avec Dieu. C'est pas une lutte de résistance contre Dieu. Ça veut dire, en train de lutter, il a voulu d'avoir la bénédiction. Il voulait de connaître Dieu. Et ça, c'est une lutte pour nous, profitable. On lutte avec Dieu. On lutte avec lui peut-être de le connaître, comme pour Paul, Philippiens chapitre 3, afin de le connaître. Il toujours parle de connaître Dieu plus, de connaître Christ et lui crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2. Je veux connaître Christ et lui crucifié. Donc, ce désir de connaître Dieu est une lutte pour Dieu, une lutte avec Dieu. On est en collaboration avec Dieu, collaborateur, co-travailleur, co-œuvrier avec lui. Et en train d'œuvrer avec lui, on est en train de découvrir Dieu, de connaître Christ de mieux en mieux, de connaître Christ et de faire confiance en lui dans toutes les situations, circonstances de la vie. Et ça, c'est une lutte. C'est pas quelque chose, peut-être, on peut se sentir à l'aise, mais c'est quelque chose de profitable pour nous, comme c'était profitable pour Jacob. C'est nécessaire si on voudrait grandir avec Dieu, si on veut croître avec Dieu, de grandir, d'être plus mûr. Et donc, c'est nécessaire. Ça, c'est une lutte profitable pour nous, que chaque croyant doit faire. Donc, nous avons vu ces cinq types de luttes, lesquelles la Bible parle. Et il faut savoir que ces luttes sont nécessaires de comprendre. On doit être formé de comprendre ses pensées afin d'accepter des bonnes luttes et de laisser tomber les mauvaises luttes. Que Dieu vous bénisse.